Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, nous allons parler d'un lieu hautement touristique, hautement symbolique et, pour les anarchistes, hautement instructif, le Palais des Doges de Venise. Et un premier indice de l'utilité pour des anarchistes de réfléchir un peu à ce que furent les Doges vénitiens, c'est l'étymologie même du mot « Doge ». « Doge » vient de la transformation, à la vénitienne, d'un mot latin « Dux. Dux signifie commandant ou général. Dux, eh oui, le Duce, le titre que s'est donné Mussolini, a exactement la même étymologie que le doge vénitien. Une grande différence entre le fascisme mussolinien et l'oligarchie vénitienne n'est pas seulement que le fascisme n'a heureusement duré que 21 ans, 1922 à 1943, alors que la Sérénissime République a duré, elle, de 697 à 1797, soit 1100 ans, mais aussi qu'il est extraordinaire de constater que parmi les 120 doges qui se sont succédés, aucun n'a réussi à devenir roi, et qu'aucune famille de l'aristocratie vénitienne n'a réussi à créer une dynastie de doges. Car, comme on va le voir, la très méfiante et très rusée aristocratie vénitienne a su limiter considérablement les pouvoirs du doge afin que le gouvernement de Venise soit un gouvernement collectif. Collectif évidemment, uniquement au bénéfice des nobles, le bas peuple comme partout ailleurs, se faisant exploiter avec allégresse. L'institution même du doge de Venise a des origines byzantines qui remontent à la nomination du premier doge, un certain Paolo Lucio Anafesto, en 697, en tant que gouverneur militaire de la Vénétie byzantine, au nom de l'exarque de Ravenne. Mais dès 742, la nomination des doges est définitivement soustraite au contrôle des empereurs byzantins. Au cours des trois premiers siècles de Venise, il y a eu 28 doges. 14 d'entre eux ont été, disons, déposés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient essayé de transformer le pouvoir dogal en pouvoir héréditaire ou de faire du doge un prince au-dessus des autres nobles. Alors, déposés, soit qu'on les ait rendus aveugles, soit qu'on leur ait coupé la barbe et les cheveux pour les défigurer, soit par une tonsure forcée à la manière byzantine, soit tués lors de révoltes. Quatre, en outre, préférèrent abdiquer, un tomba au combat, neuf seulement moururent de mort naturelle. L'aristocratie vénitienne a donc petit à petit fait de son chef, du doge, certes le magistrat suprême et le premier serviteur de la République, mais aussi presque un prisonnier. Voyons quelques dates qui nous permettent de comprendre ce processus. En 1032, il est interdit au doge de s'associer à un co-régent et on lui impose la présence quasiment constante de deux conseillers pour surveiller ses actions. En 1143, un conseil des sages est établi exactement dans le même but. En 1148, on impose au doge de prêter un serment bien particulier dont il doit respecter le contenu. 1172, ça y est, l'élection du doge est confiée à 11 puis 12 électeurs. En 1173, 78, il est établi que sur ces électeurs ducaux, 4 sont désormais tirés au sort, avec pour mission de désigner 40 autres à qui sera confiée l'élection finale, et on va voir que ceci va très vite se compliquer considérablement, puisqu'en 1268, alors là, c'est tout un système dantesque que je vais vous décrire dans quelques instants plus tard, et qui avait pour but d'empêcher les manœuvres en sous-main pendant les élections du doge. En 1275, il est interdit au doge et à ses fils d'épouser des princesses étrangères, donc de contracter des alliances qui pourraient être contraires aux intérêts de Venise. En 1339, on interdit au doge d'abdiquer. En 1342, alors là c'est vraiment méchant, on interdit au doge et à la dogaresse, son épouse, de se livrer à des activités commerciales, alors que Venise est par définition une république marchande. En 1343, on interdit aux fils des doges d'obtenir absolument la moindre magistrature dans l'État. En 1367, on interdit aux doges de posséder des terres en dehors du dogat. En 1391, c'est le Sénat qui prend en charge la nomination des évêques. En 1400, les avogadori des communes, c'est-à-dire les avoués de la commune, peuvent poursuivre le doge en justice pour n'importe lequel de ses actes, tant privés que, surtout, publics. Et en 1501, on décide même que, à chaque mort de chaque doge, il y aura des inquisiteurs qui vont réexaminer toute la comptabilité et toutes les décisions du doge pour éviter que celui-ci ne favorise ses héritiers avec ce qui ne lui aurait pas appartenu. Le titre même du doge va changer au fil du temps et au départ ça s'appelait tout simplement « Humilis dux provinciae veneciarum divina gratia venecia dux » et en 1358, eh bien, on simplifie un petit peu en « dux veneticorum et cetera » « doge des Vénitiens et autres » et ce titre durera jusqu'à la fin de la République. Une phrase latine définit bien la manière dont les Vénitiens voyaient leur doge. In senatu, senator, in foro, civis, in habitu, princeps. Au Sénat, un sénateur, sur la place publique, un citoyen, sous l'habit, un prince. Et on ajoutait souvent, à l'extérieur de Venise, un délinquant, car il fut très tôt également interdit au doge de Venise de quitter le territoire de la République. Et puis, un peu plus vulgairement, on l'appela souvent l'enseigne de la taverna del Veneto Stato, l'enseigne de l'auberge de l'État vénitien. Et dans le but de légitimer la subordination du doge à la noblesse vénitienne, eh bien, on a créé une légende qui voulait que le premier doge, le fameux Paoluccio Anafesto, celui de 697, cette légende voulait qu'il ait été élu par les 12 anciennes familles patriciennes vénitiennes et par le clergé. La méthode d'élection du doge a été longuement raffinée, complexifiée, pour empêcher les coalitions. Pour empêcher, à nouveau, qu'un individu dominant ou une famille dominante tente d'accaparer le pouvoir. Les bulletins de vote étaient mis dans des boules. En italien moderne, une boule, c'est une palla. En italien ancien, une balla. En vénitien, une ballotte. Ah, c'est de là que vient notre mot français, ballotage. Mais c'est également de là que vient le mot bulletin. À partir de 1298, la procédure voulait que, après l'enterrement du doge défunt, le Grand Conseil, c'est-à-dire l'organe souverain de la République de Venise, qui réunissait tous les membres mâles et adultes des familles patriciennes, eh bien, ce Grand Conseil devait se réunir et le plus jeune membre devait sortir du palais, choisir un enfant du peuple âgé de 8 à 10 ans. Cet enfant devait tirer au sort, dans une urne, les noms de 30 membres du Grand Conseil. Mais il fallait que ces 30 membres n'appartiennent pas à la même famille et n'aient aucun lien de sang entre eux. Bon, une fois qu'on était sûr qu'on avait bien les bons 30 membres, on en tirait au sort 9. Ces 9 nommaient 40 autres membres du Grand Conseil. Un scrutin général réduisait parmi ces 40, il réduisait ce nombre à 12. Vous suivez toujours ? Ces 12 élisaient 25 membres, parmi lesquels 9 étaient tirés au sort, et ces 9 élisaient à leur tour 45 conseillers, parmi lesquels 11 étaient tirés au sort, et ces 11 désignaient finalement les 41 qui élirait le nouveau doge. Vous n'avez rien compris, moi non plus. C'est le petit garçon choisi qui distribuait les bulletins de vote et qui les comptait après le vote. Et ce petit garçon, comme récompense de son travail, eh bien, il restait au service du doge, bien payé, et c'est la raison pour laquelle on l'appelait le ballottino. Les bulletins en tissu étaient sortis des boules et compter à l'aide de petites mains en tissu ou en bois pour éviter que l'on entraîne les petits garçons à en dérober plusieurs. Bref, l'élection prenait souvent plusieurs semaines, mais elle rendait impossible toute manipulation du résultat. Au nom de la supposée antique égalité, l'élection du doge devait toujours être soumise à l'approbation populaire qui devint petit à petit une cérémonie parfaitement formelle, sans aucune signification politique, et il fallait que le doge se montre au peuple à l'intérieur de l'église Saint-Marc, qui, quoique grande, n'est absolument pas assez grande pour contenir tout le peuple vénitien, et où à ce moment-là, le plus âgé des 41 électeurs proclamait à voix haute « Questo è il vostro doge, se ve piace ». Ceci est votre doge, s'il vous plaît. Et le s'il vous plaît, évidemment, a la même ambiguïté de signification que en français, si cela vous plaît, et s'il vous plaît, faites-le. Et puis après, il y avait bien entendu une messe à la basilique Saint-Marc, un tour de la place Saint-Marc, et enfin, un couronnement sur l'escalier des géants du palais des doges. Cette fonction de doge était à dessein extrêmement onéreuse et extrêmement contraignante. Elle était pourtant très convoitée pour le prestige qu'elle conférait aux familles aristocratiques. Mais pourquoi dis-je qu'elle était très onéreuse et très contraignante ? Parce qu'on obligeait le doge à faire les frais d'un grand nombre de banquets, de cérémonies, et ces frais étaient tellement énormes que cela excluait automatiquement que les fameux 41 électeurs choisissent pour doge l'un des membres d'une famille aristocratique très pauvre. Pardon ? Eh oui, l'aristocratie vénitienne a duré tellement longtemps que, relativement rapidement, il y a eu des descendants de patriciens, donc des patriciens, qui avaient perdu toute leur fortune et qui devinrent très pauvres. Mais on décida de les garder comme membres du conseil majeur, mais bien entendu, on prenait soin de ne pas les élire comme doges parce qu'ils n'auraient absolument pas pu faire face aux frais considérables de la fonction. Quelle était finalement la véritable fonction du doge? Principalement représentant officiel de Venise dans les cérémonies publiques et dans les relations diplomatiques avec les autres États. Un vrai pouvoir, cependant, lui est resté. C'était celui de commander la flotte et de diriger l'armée en temps de guerre. Sorti de là, il présidait tous les conseils de la République, auxquels il participait bien sûr, mais son vote n'avait pas plus de valeur que celui de n'importe quel autre membre. Comme je l'ai dit un peu plus haut, le doge était constamment contrôlé et supervisé dans ses actions par les deux conseillers qu'on lui avait infligés, et d'autres magistrats, comme par exemple ses avogadori des communes. Il ne pouvait pas se mêler à la populace, il ne choisissait pas ses gardes du corps, on lui interdisait d'habiter en dehors du palais des doges, et il ne pouvait pas non plus exposer son blason, à l'exception d'un bouclier, d'un écu, dans la salle du même nom. Tous les cadeaux qu'il recevait des dignitaires en visite allaient directement au trésor de Saint-Marc ou au trésor public. Il ne pouvait accorder aucune audience, ni ouvrir aucune correspondance, qu'en présence de ces fameux conseillers ducaux, qui étaient bien plus des surveillants que des conseillers. Évidemment, dans tous les pays, toutes les nations, toutes les tribus, la religion sert à légitimer le pouvoir. Rappelons par exemple que le roi de France était censé être ordonné prêtre de par son sacre. À l'imitation du césaropapisme de l'Empire byzantin, la fonction de doge prit, elle aussi dès le départ, des connotations religieuses, en particulier avec l'arrivée à Venise en 828, du corps, du prétendu corps de l'évangéliste Saint-Marc, et donc de la construction par le doge de l'époque, Justinien Participatio, de la basilique Saint-Marc, eh bien, le doge devient le chef de l'église de Saint-Marc. Le pape lui-même reconnaissait les prérogatives du doge, parmi lesquelles celles qui limitaient le pouvoir du pape précisément dans la nomination des évêques de Vénétie, et qui réduisait le choix du pape entre trois ou quatre noms indiqués par le doge, mais également, comme je l'ai indiqué plus tôt, en réalité donnés par le Sénat. Et cette question de la double nature du pouvoir du doge a également été discutée par le Concile de Trente en 1545, qui décida que le doge représentait bien l'Église, mais qu'il n'était ni un véritable évêque, ni un simple prince. On peut toujours compter sur le catholicisme pour dire n'importe quoi, si ce n'importe quoi sert les puissants. En tout cas, tout ceci explique les tensions permanentes entre le doge et le pape, entre la papauté et Venise, et les nombreuses guerres qui eurent lieu entre ces deux puissances. Donnons quelques noms de doge et vous remarquerez qu'il y a de très très fortes chances pour que vous n'en connaissiez aucun. Donc à nouveau Paoluccio Anafesto, le premier doge byzantin de Venise, Teodato Ipato, le premier doge de la Vénétie indépendante, Justinien Participatio, celui pendant le règne duquel le corps de l'évangéliste Saint-Marc est arrivé, Pierre II Orseolo qui, en soumettant la Dalmatie, a amorcé la domination vénitienne sur l'Adriatique, le doge Marin Falière, décapité pour avoir tenté de prendre le pouvoir bien plus tard, Leonardo Loredan, sous le règne duquel Venise a résisté à la coalition de quasiment toute l'Europe contre elle dans ce qui s'appela la Ligue de Cambrai, et enfin, peut-être le nom que vous connaissez, Lodovico Manin, le dernier doge de Venise, celui qui a déposé ses insignes avec le Grand Conseil en 1797 à cause de Napoléon et qui a ainsi fin à l'histoire millénaire de Venise. Thank you. Vous écoutez Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont les Muses s'amusent et nous parlons du Palais des Doges de Venise. Et nous savons maintenant ce que c'était qu'un doge. Mais la République de Venise va se servir du Palais des Doges, du bâtiment, de bien des manières. Il s'agit certes d'un lieu beau, parce que destiné à impressionner les étrangers, qui sont soit des clients, soit des fournisseurs, soit des collègues, soit des concurrents, des alliés, des amis, des ennemis. Et il faut donc qu'on l'aperçoive depuis la mer, puisque, jusqu'à la construction par l'occupant autrichien au XIXe siècle d'un pont ferroviaire, c'est par la mer que l'on accédait à Venise. Le Palais des Doges, c'est aussi le lieu où l'on concentre les pouvoirs et l'administration de la République. Ceci afin de diminuer les risques d'espionnage. Un seul lieu à surveiller, c'est beaucoup plus simple. Surveiller, mais quoi ? Surveiller, bien sûr, les infiltrations ennemies, mais aussi et surtout les complots intérieurs, les fonctionnaires désobéissants, corrompus, incompétents. Et un seul lieu pour assouvir la grande passion de l'aristocratie vénitienne, se surveiller les uns les autres. À ce point que, comme le palais de justice à Paris, comme le château de Vincennes, le palais des Doges est aussi une prison. Ainsi, les juges qui ont condamné peuvent surveiller chaque jour ceux qu'ils ont condamnés. Ce mélange de force et de séduction se retrouve dans son étrange structure apparente, je dis bien apparente. Contrairement à ce que voudrait la logique imposée par la loi de la gravité, la base du palais des Doges semble ouverte, légère, avec les longues galeries de grandes arches en arc cintré du rez-de-chaussée. Le premier étage, lui aussi, semble léger, avec des arches plus minces, terminées par les élégants quadrilobes si aériens, si fins, au-dessus des 36 minces colonnes. Notons que deux de ces colonnes ne sont pas en pierre blanche, mais en marbre rose. On annonçait les condamnations à mort entre ces deux colonnes, dont la couleur, dit-on donc, rappelait un peu celle du sang. Et puis soudain, au-dessus de cette légèreté, le lourd cube de cette énorme façade, où même les grandes fenêtres semblent petites. Le palais des Doges est une métaphore visuelle de la République de Venise, apparemment fragile puisqu'elle a les pieds dans la vase, mais en réalité puissante puisqu'elle commande à tout un empire commercial. En tout cas, une métaphore visuelle de ce que la République de Venise veut être. Mais le palais des Doges est un palais rose, grâce à ce savant mélange de marbre rose et de marbre blanc sur la façade. Un palais rose, c'est très séduisant, et tout bon marchand veut séduire. Enfin, il faut que le palais des Doges, c'est-à-dire le palais de l'État, c'est-à-dire le palais de la classe qui domine et qui se sert de l'État, l'aristocratie marchande, il faut que ce palais fasse rêver le petit peuple. Il faut qu'il séduise aussi le petit peuple. Il faut que le palais des chefs donne une identité au petit peuple. Si on vole le travail du petit peuple, il faut bien lui donner du rêve en échange. Là intervient le totem. Le totem, le dieu de la tribu. Souvenons-nous qu'un célèbre dicton vénitien affirme « prima veneziani e poi cristiani ». Vénitien d'abord, et ensuite chrétien. Le christianisme des Vénitiens a été très consciemment trafiqué pour servir l'identité vénitienne, et en particulier afin de contrer le pouvoir de Rome, le pouvoir de la papauté. Rome, c'est l'évêché de Saint-Pierre, le chef des apôtres. Alors, faute de grive, on prend des merles. En 828, deux marchands de Venise volent ce que l'église copte d'Alexandrie affirme être le corps de saint Marc, l'évangéliste. Ils le cachent sous de la viande de porc, impure pour les musulmans, et réussissent donc à l'emmener ni vu ni connu jusqu'à Venise. Et un évangéliste, ça vaut bien un apôtre, non ? Notons quand même qu'en 1094, on avait perdu le corps de saint Marc. Mais soudain, lors d'une messe, un pilier de la basilique s'est fissuré et, ô miracle, on a retrouvé le corps de Saint-Marc. Vraiment des experts du marketing religieux, les Vénitiens. Rappelons d'ailleurs qu'ils ont refilé la couronne d'épines de Jésus à Saint-Louis, que la Révolution française a détruit la dite prétendue couronne d'épines, mais que, ô miracle, la restauration l'a retrouvée, si si, c'est preux. Revenons-en à notre Saint Marc. On ne le représente, lui, le bonhomme, l'être humain, presque jamais. À la place, on représente son symbole, le lion ailé. On sait bien qu'un animal beaucoup plus fort qu'un homme fait un bien meilleur totem, un bien meilleur dieu protecteur, mais aussi un bien meilleur modèle à suivre qu'un homme. Alors, un lion, et a fortiori un lion ailé. Même si on le représente souvent la patte posée sur un livre où il est écrit « Pax tibi Marce Evangelista Meus »« Va en paix, marque mon évangéliste », on le représente tout aussi souvent tenant une épée, symbole de guerre. Guerrier d'abord, chrétien ensuite, on connaît la chanson. Le totem de Venise, le lion ailé, est donc présent un peu partout, sur, dans le palais des doges, et avant tout, à son entrée officielle, non pas celle qu'utilisent les touristes aujourd'hui, mais celle qu'utilisaient les doges lors des cérémonies, la porta della carta. Carta, en italien, ça veut dire papier. Une porte de papier, non, la porte des papiers, c'est-à-dire en fait l'endroit où se tenaient les scribes qui notaient les décisions officielles et qui les enregistraient dans les archives. Une fois passé la porta della carta, on se trouve dans la cour, un très étrange et très beau mélange de gothique, de renaissance et de classique. On est frappé par un escalier splendide, appelé à présent escalier des géants à cause des deux grandes sculptures qui se dressent à son sommet. L'une, Mars, dieu de la guerre, l'autre, Neptune, dieu de la mer. En d'autres termes, rappelle aux étrangers, grâce à ces dieux païens, qu'ils sont bons guerriers et bons marins, et surtout qu'ils dominent terre et mer. Nous, Français, nous sommes familiers de la chose avec Louis XIV, qui se fit si souvent représenter en Apollon, dieu du soleil. Il n'est donc pas surprenant que le couronnement du doge, le moment où le doyen des sénateurs lui met sur la tête la corne, ce bonnet un peu étrange qu'on voit sur les portraits des doges, il n'est pas étrange donc que ce couronnement ait lieu pile en haut de cet escalier, entre ces deux statues, entre ces deux représentations de l'impérialisme vénitien. Mentionnons tout de même que dans un plan des années 1500, on a remplacé le vilain Mars par le plus pacifique mais tout aussi rémunérateur, Mercure. Mercure, dieu des voyageurs, dieu du commerce et aussi dieu des voleurs et des menteurs. Glissons. Au rez-de-chaussée, on trouve à présent ce qui est appelé il Museo dell'Opera. Rien à voir avec l'opéra de Verdi. Non, ici on parle d'opéra d'œuvre au sens de maître d'œuvre. L'opéra était l'administration vénitienne qui s'occupait des bâtiments et donc en particulier du palais des doges. On trouve aujourd'hui dans ce musée des chapiteaux médiévaux représentant entre autres les signes astrologiques. Et rappelons-là que le Moyen-Âge si chrétien croyait avec enthousiasme à l'astrologie. On voit également les sept péchés capitaux ainsi que des métiers, tailleurs de pierre, orfèvres, cordonniers, charpentiers, marchands, fermiers, forgerons et bien entendu notaire. Et puis quand même un très beau buste extraordinaire de vie représentant le doge Francesco Foscari. Get back. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité 89.4. Ce sont les Muses s'amusent et nous continuons à parler du Palais des Doges de Venise. Une mission importante assignée à ce Palais des Doges, c'était d'impressionner les diplomates étrangers qui pénétraient après tout dans le cœur de la puissance vénitienne. Et il fallait donc faire preuve de magnificence, il fallait démontrer l'efficacité de l'administration vénitienne, et il fallait enfin démontrer que tout venait de la participation collective de l'aristocratie aux décisions de l'État vénitien. Certes aussi, pour rappeler aux Vénitiens eux-mêmes, répétons-le, qu'il n'était pas question qu'un individu ou une dynastie prenne le pouvoir. Mais il était aussi utile de le rappeler aux étrangers qui auraient été tentés de corrompre tel ou tel personnage puissant de la Sérénissime en pensant qu'un seul individu avait l'influence de faire bouger les décisions de toute la collectivité. Tout ceci explique la décoration du magnifique escalier d'or, la Scala d'Oro, escalier d'or, parce qu'officiellement ne pouvait l'emprunter que les nobles inscrits au livre d'or, oui c'est de Venise que vient l'expression. Ce livre d'or, eh bien, c'était le nom donné au rassemblement des actes de naissance des enfants des familles nobles, déclarés auprès des avogadori di comune, les avoués de la commune. On voit dans cet escalier au plafond des stucs absolument splendides, d'un type que l'on retrouve très souvent dans les escaliers des palais vénitiens. Les fresques y célèbrent les victoires à nouveau de l'impérialisme vénitien. En Crète et à Chypre, rappelons que Venise a longtemps dominé ces deux îles. Et puis, il y a deux statues en marbre qui représentent Hercule et l'hydre de Lerne d'un côté, Atlante soutenant la voûte céleste de l'autre. Mais les choses les plus intéressantes se trouvent en fait sur les murs de la loggia du premier étage. Ce sont les bouches de lion, qu'à Rome, on appelait les bouches de la vérité, c'est-à-dire les boîtes aux lettres pour les dénonciations. La plus connue est un visage un peu grotesque, dont la bouche, ouverte bien sûr, c'est la fente de la boîte aux lettres. En dessous, une inscription dit « Dénonciation secrète contre qui occultera des grâces et des offices ou sera en collusion pour cacher leur véritable revenu. » Bref, dénonciation contre la corruption. Il y en a plusieurs dans le palais de ces bouches de lion sur les murs de telle ou telle administration chargée de tel ou tel contrôle. Mais, contrairement aux lettres de dénonciation de juifs et de résistants inondèrent la police de Vichy, l'administration vénitienne ne lisait que les dénonciations signées. Et en cas de calomnie, c'était le dénonciateur qui était puni. Quelque part, ce procédé rappelle la tendance actuelle du capitalisme à faire en sorte que l'acheteur travaille le plus possible pour épargner des frais aux vendeurs, comme par exemple dans le cas des caisses automatiques. En tout cas, le système a plutôt bien fonctionné en ce qui concerne la stabilité de l'État vénitien, puisque je rappelle que celui-ci a duré 1100 ans. On peut accéder, au milieu de l'escalier d'or, aux appartements privés du doge. Il ne s'y trouvait aucun meuble. Le doge amenait les siens et on les rendait à sa famille après sa mort. La première salle de ces appartements des doges s'appelle la salle des Scarlatti. la salle des écarlates, de la couleur des toges portées par les conseillers du doge, ceux dont j'ai dit qu'ils étaient en réalité des surveillants, et ils l'attendaient dans cette salle. La salle suivante s'appelle la salle de l'écu. L'écu, c'est à la fois le bouclier au sens physique du terme et au sens héraldique du terme. On y voyait donc le blason du doge. On y voit toujours le blason du dernier doge, Lodovico Manin. Et puis on y voit deux grands globes. Attention, seul l'un des deux globes est un globe terrestre, l'autre présente la voûte céleste. Jusqu'au début du XIXe siècle, on ne commandait jamais un seul globe, mais deux, le second représentant toujours la voûte céleste. Sur les murs, des cartes du monde. Si on regarde bien, on y trouve la France, et on y trouve des noms de villes françaises. Mais de même que nous, Français, avons le culot de francifier les noms des villes italiennes, eh bien les Italiens n'ont pas hésité à italianiser les noms des villes françaises. Donc on voit Marsiglia, Antibo, Tolone, Nizza, et puis même un qui est resté français pour le coup, Saint-Tropez. Le vulgum pecus touriste n'est pas autorisé à pénétrer dans la chapelle privée du doge, et c'est bien dommage parce qu'il s'y trouve une œuvre magnifique du Titien, un Saint-Christophe. Une fresque. À nouveau, les fresques ne sont pas si courantes à Venise sur les murs, parce que les murs de Venise sont très souvent humides, ce qui est mortel pour la fresque. Mais là, il s'agit d'un mur très intérieur, dont il était par conséquent assez improbable qu'il devienne humide. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont les Muses s'amusent et nous continuons à parler du Palais des Doges de Venise. L'escalier d'or vous emmène ensuite au deuxième étage, dont la plupart des salles ont été refaites après un grand incendie en 1577. La plupart des plafonds de cet étage sont décorés de boiseries et de moulures dorées à la feuille d'or, entourant des dizaines de toiles marouflées. L'effet général, et j'en reparlerai pour la salle du Grand Conseil, est hélas souvent une impression d'écrasement. Accentué par la couleur sombre des boiseries, le fait que bon nombre de peintures n'ont pas été nettoyées et qu'elles sont donc elles aussi sombres. On commence par l'atrium carré, réalisé par Jacopo Sansovino, à qui on doit aussi l'escalier d'or. Sur le plafond, une grande toile du Tintoret qui représente le doge Jérôme Priuli, accompagné logiquement de Saint Jérôme, devant deux dames, la paix et la justice. Venise n'a pas vraiment beaucoup travaillé à la paix, et pour la justice, ma foi, cela va être une question de définition. Après l'atrium carré, vient la salle des quatre portes, dessinée par le grand architecte Palladio. Les dites quatre portes sont en réalité d'énormes portails de marbre. Chaque portail est surmonté de sculptures censées représenter l'activité de l'institution à laquelle le dit portail donne accès. Le collège, le sénat, le conseil des dix et la chancellerie. L'une des peintures de cette salle représente un épisode de la visite de Henri III à Venise, un événement rarissime, car la Sérénissime fut très peu visitée par des souverains étrangers au cours de son indépendance. Henri III, souvenons-nous, c'est le troisième et dernier fils de Catherine de Médicis. Donc comme il est le troisième, il ne s'attend pas à régner en France, et quand les Polonais lui proposent la couronne de Pologne, il l'accepte à nouveau, faute de grive, on prend des merles. Mais après seulement 146 jours de règne à Varsovie, la nouvelle arrive que le deuxième fils de Catherine de Médicis meurt, et que Henri de Valois, roi de Pologne, est donc aussi roi de France. Alors, entre régnant en Pologne et régnant en France, le choix est vite fait, en particulier à une époque où la Pologne était un brin rustique, et sans oublier que la Pologne est traditionnellement un pays que tous ses voisins envahissent régulièrement. Mais sachant que les Polonais ne voudront pas le laisser partir, Henri III s'évade, il n'y a pas d'autre terme. Une évasion rocambolesque et littéralement un bride abattu, il va galoper des heures et des heures pour arriver jusqu'à la frontière polonaise. Mais comme à l'époque, les rois ne font jamais de tourisme, eh bien il veut profiter de cette occasion qui ne se reproduira plus jamais dans sa vie, et il demande à Venise s'il peut venir faire un tour. Le Sénat vénitien y voit immédiatement ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un formidable coup de pub et décide que la réception de Henri III va être grandiose. Ils vont même suspendre les lois somptuaires qu'ils avaient passées sur les costumes et sur les fêtes. Incontestablement, la visite d'Henri III a été le moment le plus somptueux, le plus fastueux de toute l'histoire de la République de Venise. Pour l'anecdote, signalons que la digne République va offrir à Henri III une nuit d'amour avec la plus célèbre prostituée de Venise, Veronica Franco, qui était la plus célèbre, entre autres choses, parce qu'elle était la plus intelligente et la plus lettrée des courtisanes de Venise, dont beaucoup étaient fort intelligentes et fort lettrées, et ce à tel point que ses poèmes et ses lettres font encore partie aujourd'hui du corpus de la littérature italienne. Un peu plus loin, dans la salle de l'anti-collège, alors anti comme dans antichambre ou comme antérieure, une peinture par Véronèse représente Venise, donnant récompense et honneur. À nouveau, comme dans le cas des doges, la plupart des déshonneurs coûtaient de l'argent, du temps et des efforts à ceux qui les recevaient au lieu de leur en rapporter. Un système dont les prétendues démocraties modernes devraient peut-être s'inspirer. Mais de loin la plus belle peinture de cette pièce, et de loin à mon goût personnel la plus belle œuvre de tout le palais des doges, c'est une merveilleuse toile de Véronèse qui représente l'enlèvement d'Europe. Une porte de l'anticollège ouvre, très logiquement, sur le collège. Le collège avait pour membre le doge, 6 conseillers provenant du conseil mineur, rappelons-nous, nous avons le grand conseil, appelé en italien conseil majeur, et ce conseil mineur était également appelé la seigneurie. On y trouve aussi les 3 chefs de la quarantia criminale et les 16 sages représentant divers territoires de la République, mettons plutôt un peu comme des préfets. C'était également la salle de réception officielle des ambassadeurs et des nonces apostoliques. Le plafond est couvert de toile avec à nouveau Mars et Neptune, mais surtout avec les vertus nécessaires au bon gouvernement. La prospérité, on n'est pas pour rien dans une ville commerciale. La loyauté, la vigilance, la mansuétude, la simplicité, la modération, et puis, la plus surprenante, la dialectique. Non, on ne parle pas encore de Hegel et encore moins de Marx. Non, là, la dialectique, c'est plus simplement l'art du dialogue argumenté, ce qui n'a strictement rien de surprenant pour une république de marchands, de marchandeurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans cette toile de Véronèse? Eh bien, c'est que Véronèse nous représente la dialectique comme une belle jeune femme tenant d'une main un bâton, et puis, depuis le bâton de l'autre main, elle tisse une toile d'araignée qui est censée représenter le complexe réseau de liens créé par la dialectique, par le dialogue. De là, on va dans la salle du Sénat, également appelée la salle des pregadi, c'est-à-dire la salle des priés, des gens qui se sont fait prier, parce que les sénateurs étaient priés d'assister aux séances du Sénat. Les 120 sénateurs discutaient en général de politique étrangère et militaire, et c'est la raison pour laquelle l'une des toiles, par Palma le Jeune, représente la stupéfiante victoire de Venise sur la Ligue de Cambrai. Pourquoi stupéfiante? Eh bien, la Ligue de Cambrai, en 1508, c'était, excusez du peu, la France, l'Espagne, le Saint-Empire romain germanique et les troupes du pape. Tout ça attaque Venise. Eh bien, Venise saura semer la discorde entre tous ses alliés et reprendre quasiment tout de ce qu'elle avait perdu. Bref, une guerre typique qui ne sert strictement à rien pour les peuples, qui leur coûte des milliers de morts et des années de cruauté et de ravages. De là, on passe à la salle du Conseil des Dix, dont le but était officiellement de garantir la sécurité de l'État. Établi dès 1310 et de manière permanente en 1455, le Conseil des Dix pouvait enquêter sur n'importe qui, même le doge, par n'importe quel moyen, et on verra un peu plus tard que la torture était un moyen courant d'enquêter sur qui que ce soit et de condamner n'importe qui. De là, on passe à la salle de la boussole, et les gens qui payent pour les itinéraires secrets, même si par définition ils ne sont pas secrets puisqu'ils sont en vente publique, passons, eh bien, ces itinéraires secrets permettent d'aller par les salles des trois chefs et la salle des inquisiteurs, soit aux piombi, les plombs, les prisons situées sous les toits, soit aux pozzi, les puits, les prisons au rez-de-chaussée. Mais pour l'instant, on continue. On passe par l'armurerie avec 2000 instruments de meurtre, également appelés armes, canons, fusils, mousquets, hallebardes, haches, épées, poignards, casse-tête, etc. À Paris, nous faisons bien pire, puisqu'au musée de l'armée, nous exposons 60 000 objets, principalement des armes. De là, on passe par la salle de la vieille Carantia Civile, puis par la salle de l'armement, où l'on voit l'une des représentations les plus célèbres du totem de Venise, le lion de Saint-Marc, celle par Carpaccio. Alors ce lion de Carpaccio, il marche. Il a les pattes de derrière encore dans la lagune et les pattes avant sur la terre, histoire de montrer, comme d'habitude, que Venise domine et la terre et la mer. Cette peinture date de 1516, donc un an après 1515, la victoire de Marignano. Et nous disons Marignan, mais c'est Marignano. Et François Ier, à ce moment-là, était devenu non plus l'ennemi, mais l'allié de Venise, et sa victoire sur les Suisses, les mercenaires suisses de l'armée des Habsbourg, a mené à un traité de paix entre le Saint-Empire romain germanique des Habsbourg et Venise en 1516, d'où cette toile. Et puis on arrive à un lieu extraordinaire, la salle du Grand Conseil. Immense, 53 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, mais souffrant de l'effet parking. Les parkings souterrains sont souvent très longs, très larges, mais à peu près toujours très bas de plafond. 100 mètres de long, mais à peine 2 mètres 20 de plafond, ça s'est vu. Et c'est horrible, écrasant, claustrophobique. C'est un peu ce qui se passe dans cette salle, pas assez haute par rapport à sa longueur. Il aurait fallu un plafond de cathédrale pour ne pas subir cet effet. Je rappelle que les dimensions extraordinaires de cette salle sont dues au fait que le Grand Conseil, vu donc comme l'organe souverain de la République une fois le doge ramené à de justes proportions, ce Grand Conseil rassemblait tous les membres mâles des familles patriciennes âgés d'au moins 25 ans, à l'exception de ceux entrés dans les ordres, méfiance envers la papauté oblige. On a donc eu des séances à 2500 membres. Mais c'est une preuve du déclin de la République, qu'à la toute dernière séance, le 12 mai 1797, il n'y avait plus que 1000 personnes dans la salle. Le Grand Conseil se réunissait souvent, mais décidait de peu de choses, étant finalement plus un réservoir de membres des autres assemblées qu'autre chose. Dans cette salle se trouve l'une des plus grandes toiles du monde, le Paradis par le Tintoret, 24 mètres de long sur 7,5 mètres de haut. Complètement raté. Sombre, surpeuplé, c'est un paradis où on n'a pas la moindre envie d'entrer. Et ce plafond compte 35 autres peintures, toutes un peu étouffes chrétiens. Sur les murs, une palanquée de peintures de victoires vénitiennes, elles aussi sombres, confuses, et pour tout dire la plupart du temps chiantes, même si de temps en temps, tel ou tel détail vaut d'être regardé. Une frise court le long des murs avec des portraits de doges. Et puis soudain, au milieu, un drapeau noir. Ah non, 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 non. La Sérénissime République n'a pas eu un accès d'anarchisme. Non, ce drapeau noir, c'est la représentation du doge traître Marin Falière, celui qui fut décapité sur l'escalier des géants en 1355. La salle du Grand Conseil est si grande que lorsqu'on regarde le palais des doges depuis la lagune, eh bien, toute la façade du deuxième étage, d'un bout à l'autre, est occupée par cette salle. Un peu plus loin, nous avons la salle du scrutin où se déroulaient, vous l'avez deviné, les horriblement complexes opérations de l'élection du doge. Et roulez jeunesse, pas moins de 33 tableaux de victoire vénitienne, uffa, comme on dit en italien. Vous écoutez Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont les muses s'amusent, on continue à parler du Palais des Doges de Venise. Alors, si vous n'avez pas trop souffert d'indigestion picturo-soldatesque, vous vous dirigez à présent vers la pire hôtellerie du monde, les prisons du Palais des Doges. Elles se divisent en deux, celles qui sont effectivement dans le palais des doges, qu'on appelle les vieilles prisons, et puis celles qui se trouvent dans le bâtiment en pierre blanche juste à côté du palais des doges, celui qui lui est relié par le fameux pont des soupirs. Elles sont appelées les prisons nouvelles, puisqu'elles furent construites à partir de 1580. On ne peut pas visiter les vieilles prisons par l'itinéraire normal, qui entre nous coûte juste 30 euros. Il faut y aller par la visite appelée itinéraire secret, qui elle aussi coûte la peau des fesses. Et c'est bien dommage, parce que cette hyper-proximité des prisons et des tribunaux, si l'on peut appeler ces institutions des tribunaux, et cette hyper-proximité des tribunaux avec l'intégralité des autres organes du pouvoir, est une révélation extraordinairement claire du fait que le pouvoir est d'abord, toujours, basé sur la violence, la force, la répression. Je rappelle à ce sujet la célèbre citation du très réactionnaire Joseph de Maistre : « Toute grandeur, toute puissance, toute subordination repose sur l'exécuteur. Il est l'horreur de l'association humaine. Ôter du monde cet agent incompréhensible, dans l'instant même l'ordre fait place au chaos, les trônes s'abîment et la société disparaît. » Merci, monsieur le réactionnaire, de votre parfaite lucidité quant à la véritable raison de la permanence des sociétés, justement, réactionnaires. Et on en veut la preuve à la salle des tortures, un lieu évidemment exigu et effrayant, une fosse en bois, sur laquelle s'ouvraient des balcons étroits de cellules de prisonniers en attente de jugement. La méthode la plus répandue était très simple. La torture de la corde pendait du plafond, on y attachait les poignets des prisonniers. Et puis on tirait lentement vers le haut, jusqu'à éventuellement suspendre en l'air le prisonnier, jusqu'à ce qu'il avoue. Et bien entendu, ces cellules des prisonniers donnant sur cette fosse profonde, c'était fait pour que les cris du torturé puissent être entendus haut et fort des prisonniers en attente de jugement, dans l'espérance que leurs aveux arriveraient ainsi plus vite. On utilisait également une torture très simple et horrible, la fameuse torture de la goutte d'eau. Le prisonnier est immobilisé sur une chaise, sa tête est tirée en arrière, et une goutte d'eau glacée tombe sur son front, toujours au même endroit, avec une cadence précise. Cela empêche absolument le prisonnier de se reposer et de dormir, refroidissant ainsi l'organisme tout entier. L'immobilité forcée provoque également des lésions musculaires et des problèmes de circulation. Si on laissait la victime suffisamment longtemps sur ce chevalet, cette torture atroce entraînait la mort. Dans Venise, chaque sestiere, chaque quartier, avait ses propres prisons, où l'on purgeait les délits mineurs. Pour les débiteurs, par exemple, on ouvrait les portes des prisons de San Marco, situées dans la Mercerie, l'actuelle rue commerçante. Mais les crimes graves étaient purgés, eux, dans les prisons du Palais des Doges, les pires étant Ipozzi, les puits. Les puits étaient situés aux étages inférieurs du Palais des Doges. On y accédait par un escalier situé tout près de l'escalier des Géants, à nouveau le lieu du couronnement des Doges. Les puits doivent leur nom à leur emplacement, un plancher tellement bas que les jours de grande marée, il est inondé, devenant un véritable puits. La structure des pozzi, des puits, était en cercle concentrique. Les cellules occupaient la partie centrale du sol, et tout autour d'elles se trouvait un couloir dans lequel seuls les gardiens circulaient pour distribuer le graillon à travers de petites fenêtres. Les cellules n'avaient donc aucun contact avec l'extérieur, pas d'air, pas de lumière directe. La seule lumière qui leur parvenait était celle des fenêtres carrées du couloir. Beaucoup trop peu pour distinguer le jour de la nuit, le beau temps du mauvais temps. Elles étaient toutes plus ou moins les mêmes, exiguës, avec des plafonds voûtés, mais tellement bas que tous les prisonniers ne pouvaient pas se tenir debout. Et pensaient que la taille moyenne à cette époque était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Le seul meuble était une planche servant de lit. Les pozzi étaient utilisés pour détenir les prisonniers coupables des crimes les plus graves, et ils n'en sortaient pas toujours vivants. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont voulu laisser une trace de leur passage avec des graffitis. Une véritable œuvre d'art y a été découverte lors de la restauration à la fin du XXe siècle. Un cycle de graffitis représentant sur un mur la Vierge à l'Enfant, entourée des saints Roch, Sébastien et Benoît, tandis que sur le mur opposé figure le Christ en croix avec saint Roch tenant une cloche accompagnée de deux cochons. C'est dû à Riccardo Peruccolo, un jeune peintre. Au milieu du XVIe siècle, il est enfermé dans les pozzi par l'Inquisition car il est accusé d'être protestant. Mais il n'est pas resté très longtemps parce que, terrifié par la torture et les conditions inhumaines des cellules, il a avoué et il a été rapidement libéré. Il a cependant eu le temps d'égayer le séjour des autres détenus avec son œuvre, restée sous une épaisse couche de terre pendant des siècles, en utilisant un clou pour graver les figures sur une couche de chaux fraîche et un petit pinceau imbibé d'eau mélangée à de la poussière de charbon pour remplir les rainures. Libéré, l'artiste a vécu encore une vingtaine d'années, mais il était vraiment protestant et est donc mort sur le bûcher en 1568. Les piombi, c'est-à-dire les plombs, c'étaient des cellules qu'on appelait ainsi parce qu'elles étaient situées juste au-dessus de la salle des trois chefs, mais juste en dessous du toit fait de feuilles de plomb. 50 degrés l'été, beaucoup moins l'hiver. Torture, simple et gratuite, une fois l'investissement amorti. Bref, la répression capitaliste parfaite. Les plombs étaient divisés en 6 cellules, faites de cloisons en bois de mélèze clouées ensemble et rendues solides par des éléments en fer. Leur taille variait entre 2 et 4 mètres de côté, pas de fenêtre. Mais l'air nauséabond qui s'élevait des puits et qui envahissait une partie de la cour commença à devenir insupportable. On a donc décidé de construire une structure exclusivement dédiée à la détention, c'est-à-dire ces prigioni nuove, les nouvelles prisons, le bâtiment en pierre blanche à côté du Palais des Doges, le tout premier exemple en Europe d'un bâtiment unifonctionnel destiné à être une prison d'État. Toutes les ouvertures, intérieures et extérieures, sont équipées de grilles solides qui n'ont pas été placées à la fin de la construction, mais pendant la construction. Le reste du bâtiment a quasiment été construit autour de ces grilles. Les défaire ou les couper est totalement impossible, un signe clair de la force de la Sérénissime. À l'intérieur du palais, il y avait de nombreuses cellules pouvant contenir jusqu'à 400 prisonniers. La subdivision était stricte et suivait la hiérarchie de la gravité des crimes commis. La structure habitait également la magistrature appelée les seigneurs de la nuit criminelle, composée de 6 membres, chacun représentant un sestiere, un quartier, en gros un peu comme nos procureurs de la République. Les prisonniers arrivaient au Prigioni Nuove après avoir été jugés au Palais des Doges, et c'est pourquoi un lien direct a été construit entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant, le pont des soupirs. Et c'est l'un des plus aberrants paradoxes de l'imaginaire touristique, que ce pont des malheurs soit devenu le lieu devant lequel on se fait photographier en amoureux. En sortant des prisons, encore quelques salles essentielles, la salle des censeurs chargée de la surveillance des opérations électorales et de quelques autres amusements, tels que les crimes commis par les gondoliers et les casinos clandestins. Puis la salle des avogadori des communes, les avoués de la commune, 3 magistrats au très grand pouvoir, puisqu'ils pouvaient bloquer même les décisions du très craint Conseil des Lys. Et si vous ne vous y retrouvez pas parmi tous ces noms d'assemblées et de conseils, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Mais cette surveillance mutuelle et maniaque, ça a été le prix et l'instrument de la survie de l'État vénitien. Après quoi, dans la salle dello scrigno, donc littéralement la salle de l'écrin, on voit les armoires qui contenait le registre des familles nobles, le Libro d'Oro, mais aussi le registre des familles pas nobles du tout, mais quand même anciennement vénitiennes, le Libro d'Argento. Rappelons qu'on pouvait passer du Libro d'Argento à Libro d'Oro en faisant une donation à la République, mais alors grosse, dans notre monnaie actuelle, disons quelques dizaines de millions d'euros. Enfin, la salle de la Milizia d'Amar contenait les listes d'enrôlement de la flotte de guerre de la Sérénissime. Et puis, comme dans presque tous les musées et monuments modernes, on prostitue une salle historique au vrai dieu, Mammon. À Giverny, l'atelier où Claude Monet a peint les nymphéas est maintenant la boutique aux souvenirs. Et donc au Palais des Doges, eh bien c'est l'ancienne chancellerie qui sert maintenant de supermarché à gadgets. Vous écoutez toujours Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4, sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'était les Muses s'amusent. Nous avons discuté du Palais des Doges à Venise et nous vous retrouverons le premier lundi de chaque mois. À bientôt, bonne nuit, bonne écoute.
Voyage, voyage, plus loin.
Les Muses s'amusent et grâce à Christiane, nous avons pu choisir beaucoup de musique excellente. Le premier morceau, c'était Orange Blossom, c'était Maldito, Cursed. Le deuxième morceau, beaucoup de monde aura reconnu Chasing Sheep is Best Left to Shepherds, de la bande originale de l'excellent film Meurtre dans un jardin anglais. Ensuite, nous avons eu bien entendu Money de Pink Floyd. Et puis, il y a eu deux morceaux qui, tous les deux, étaient des extraits de la suite numéro 3 d'Ennio Morricone. Et nous avons juste terminé à l'instant avec une reprise de Voyage, Voyage. Et donc, nous nous retrouverons tous les premiers lundis de chaque mois avec les Muses s'amusent. Bonne nuit et bonne écoute.
Pax tecum sit, Dominus sit.
26, but only 4 were